C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur 101.5 FM à l'écoute de Radio G. Bienvenue dans l'émission J'entends des voix, une émission à plusieurs voix qui donne à entendre ce qui s'écrit, ce qui se dit, ce qui se lit et peut-être aussi ce qui se chante. J'entends des voix, c'est une demi-heure, deux fois par mois, le jeudi à 9h10 en semaine impaire sur Radio G 101.5 FM et en podcast sur radio-g.fr. J'entends des voix, c'est une thématique à travers des textes qui se suivent et ne se ressemblent pas, accompagnés d'une sélection musicale. Pour cette fois encore, un méchant virus nous prive d'une de nos voix fétiches. Alors on reste les pieds sur terre et on continue à décliner les pieds en éventail ou palmé. Et on commence avec David Le Breton qui nous emmène sur la Lune avec une éloge de la marche.
Nous sommes en 1969. Des hommes au corps lourdement appareillés, effacés, redéfinis par une somme incroyable de prothèses, assument un rêve. Du moins, celui d'un grand nombre. Marcher sur la Lune. Après Cyrano ou les personnages de Jules Verne, après Tintin, l'un des astronautes, Neil Armstrong se retourne sur ses pas, fasciné par ces marques qui impriment le sol de la mer de tranquillité. Il photographie ses propres traces. Bien entendu, ce ne sont pas là les empreintes de pieds nus d'un quelconque vendredi. Ce Robinson-là n'a guère l'intention d'ôter les pesantes machines qui lui servent de chaussures. J'aime imaginer, à l'encontre des faits, mais tant pis, que Neil Armstrong se sente à l'étroit dans la combinaison pleine de gadgets qui relaient toutes ses fonctions physiologiques pour le protéger du dehors. Aucune crainte en ce sens d'une envie pressante. Armstrong se demande, mais un peu tard, ce qu'il voit, touche, sent, hume, goûte de la Lune. Il se demande ce qu'il racontera à son fils qui lui demandera plus tard ce qu'il a pu ressentir à ce moment. Il pense soudain, avec une infinie nostalgie, aux rivières de son Montana natal. C'est moi qui l'imagine, je ne sais pas d'où il est originaire et cela m'est bien indifférent. Il voudrait enlever son scaphandre et se rouler dans la mer de tranquillité. Prendre une poignée de sable lunaire et le jeter pour voir s'il y a du vent. Courir et sentir le sol de ses pieds nus. Mais il se sent bien dérisoire, coincé sous ses palpeurs, ses microprocesseurs, cette lourde combinaison qui le force à une marche pataude. Quelle idiotie d'être là et de ne pouvoir rien faire d'autre que de simplement regarder ce que des millions de gens voient en même temps. C'est comme d'avoir une angine et de rester bêtement à frissonner devant une eau limpide qui appelle la baignade. Marcher sans corps avec ce truc sur le dos, quelle dérision, pense-t-il amèrement. Du moins, il me plaît de l'imaginer. Face à la résistance du monde à se couler dans le moule de ce qu'on aimerait qu'il soit, autant inventer des situations qui nous donnent en partie raison. Du moins, si une mauvaise fortune m'avait mis à la place d'Armstrong, voilà ce qui aurait occupé mon esprit. Le plein vent du monde est mille fois préférable au meilleur des scaphandres. Que signifie marcher sans corps? Autant nager sans l'eau. Vous souvenez-vous de Nathan Paulin, le funambule qui, à 27 ans, a relié sur sa slackline la tour Eiffel au Trocadéro. Retrouvons-le dans cet article du Figaro du 6 janvier 2022.
Difficile au premier abord d'ajuster l'image de la micro-silhouette plein ciel de Nathan Paulin que l'on a en tête avec celle de ce grand jeune homme qui se déplie en culminant à 1m97. Souvenir de juillet 2020. Du choc émotionnel vécu en le découvrant, tel un nageur de l'air, sur son fil de 2,5 cm de large, dans une arène de verdure près d'Annecy. Pieds nus, le t-shirt blanc gonflé comme une voile par les coups de vent, il rebondissait, s'asseyait, se suspendait d'une seule main, tandis que sa voix enregistrée résonnait à notre oreille. Quand j'étais jeune, j'ai eu de mauvaises expériences avec le vide. Quand on arrive à maîtriser une peur, on peut en maîtriser d'autres. C'est au reposoir que tout a démarré, et plus précisément dans le jardin de ses parents, l'été de ses 17 ans, en 2011. Il y installe une slackline proche du sol. Je m'ennuyais un peu. J'étais partie pour passer un bac technique et entamer des études d'ingénierie mécanique. Mais je ne savais pas trop ce que j'avais envie de devenir. À l'époque, j'éprouvais un besoin de me concentrer. La slackline m'a fait du bien. C'est un peu comme une méditation. Peu à peu, il la déroule sur une distance de plus en plus grande en traversant les terrains des voisins. Et je ne me suis plus jamais ennuyée. 3 mois plus tard, il se teste dans le vide, sur des falaises à Grenoble, et tombe. J'étais terrorisée. J'avais trop peur, mais ça ne me plaisait toujours. J'ai recommencé et j'ai progressé. C'est le besoin de pratiquer qui m'a rendu bon. Par ailleurs, il faut savoir que je ne cours aucun risque. Je suis toujours attachée. Depuis, la toile de Nathan Paulin s'est déployée de façon sidérante et vite. Dès 2015, il accumule les contrats en France et à l'étranger, en particulier en Chine, où il tire son fil pendant 4 ans dans des spots touristiques à valoriser. Parallèlement, il enchaîne les records du monde. En 2015, il affronte 403 mètres de longueur à une hauteur de 500 mètres sur l'île de La Réunion. 2 ans après, il marche sur 1,6 km à 300 mètres de haut dans le cirque de Navacelle, au cœur des Cévennes. Du Vieux Port à Marseille, au quartier de la Capsulerie, à Bagnolet, des buildings de Moscou, au glacier Minya-Konka en Chine, des gorges du Verdon à l'Aiguille du Midi, ces lignes aériennes s'étirent à l'infini. Mais de ces espaces somptueux, c'est la Tour Eiffel qu'il préfère. Depuis 2007 et mon premier parcours pour le Téléthon, sur une sangle de 670 mètres jusqu'au Trocadéro, j'ai fait 2 autres traversées, dont l'une se déroulait la nuit entre 2 piliers. On se connaît bien, elle et moi. Il y a une complicité entre nous. Nathan Paulin appartient aujourd'hui au petit groupe d'une dizaine d'eyeliners qui vivent de leur art dans le monde. Ma pratique est solitaire, mais elle ne peut pas exister sans une équipe, insiste-t-il. Selon les cas, 3 ou 20 personnes sont nécessaires pour tendre le fil et assurer la sécurité. Ce sont les bras, toujours en l'air, qui fatiguent le plus. Quant à la peur du vide, il a appris à la dompter, même si elle ne le quitte jamais. Elle est généralement présente en début de traversée, et puis la confiance s'installe et elle s'évanouit. Mais ça dépend des endroits. Ça a été un long cheminement pour la vaincre. La musique m'y a aidée, car elle permet de se détacher du reste et de se sentir invincible. J'ai également appris à tomber. Au début, c'est éreintant. Le fil est fin et coupant. Et pour remonter dessus, c'est très douloureux. Aujourd'hui, ce n'est plus problématique.
Quelques adages, citations et dictons sur les pieds maintenant. Histoire de s'ancrer un peu plus au sol.
La maladie vient à cheval et s'en retourne à pied.
Les pieds qui sont accoutumés à marcher ne se peuvent tenir en repos.
Celui qui marche dans les ténèbres heurte son pied.
Une mauvaise herbe tue 3 pieds de froment et prend la place d'un 4e.
Celui qui a le pied rapide prend les devants.
Un bon pied sauve un mauvais corps.
Chaque pied déchaud trouve sa déchaussée.
Qui veut un roussin sans tare ? Qu'il aille à pied.
Le bonheur est tout entier pour l'homme dont le cœur est satisfait. Pour celui qui a le pied chaussé, la terre n'est-elle pas en quelque sorte toute couverte de cuir ?
Le sage avance un pied et se tient ferme sur l'autre.
Le tailleur est nu, le savetier pieds nus.
Il est du naturel du chat, il retombe toujours sur ses pieds.
L'enfant est le pied du vieux.
Lorsqu'on achète des souliers, on s'informe du pied.
Le pied de l'éléphant ferme le bec de l'oiseau.
Les pieds trop agiles font tomber de l'arbre.
Le cœur porte les pieds.
3 pieds de glace ne se font pas en un jour de froid.
Mieux vaut glisser du pied que de la langue.
Quand on tombe, ce n'est pas le pied qui a tort.
La lampe sans pied n'éclaire pas loin.
Qui marche sur les roses peut avoir les pieds percés d'épines.
L'homme sensé est celui qui a les pieds bien sur terre.
En baisant les pieds des idoles, on voit qu'elles sont d'argile.
Que celui qui n'a pas le pied marin reste à terre.
L'or ne croît point sous les pieds d'un rouet affilé.
Un pauvre homme est foulé aux pieds d'un chacun.
Ne sent la braise que celui qui a le pied dessus.
Un emplâtre bon pour les pieds ne l'est pas pour la tête.
Quand on n'a pas une chose dans la tête, il faut l'avoir aux pieds.
Plutôt aller pieds nus que de ne point avoir de pieds.
Le pied ne va que là où l'amour le guide.
Seule la chaussure sait si la chaussette a des trous.
Remue les mains et les pieds, et Dieu t'aidera.
Quand l'homme meurt, ses pieds s'allongent.
Décrotter les souliers de ses compatriotes vaut mieux que décrotter ceux d'un étranger.
Qui n'a pas de main doit s'assister de ses pieds.
Un chat retombe toujours sur ses pattes.
On ne met pas le pied sur une planche pourrie.
La pâle mort heurte du même pied aux cabanes du pauvre et au palais des rois.
Les moutons ont des pieds d'or et partout où ils passent, le sol devient de la poussière d'or.
Mieux vaut les voir que de les respirer. Je suis sensible des extrémités.
Et c'est pour ça du sang.
Vous avez écouté « Les pieds oranges », titre de l'album éponyme des Satellites, groupe de rock alternatif des années 90. Retrouvons maintenant l'américaine Pearl Buck avec un extrait de « Vent d'Est, Vent d'Ouest ».
Après un long silence, mon mari ferma son livre et me regarda attentivement. « Quellan, » dit-il. Mon cœur bondit, c'était la première fois qu'il m'appelait par mon nom. Qu'avait-il à me dire enfin ? Je levai timidement les yeux vers lui. Il continua. « Depuis notre mariage, je veux vous demander si vous ne voudriez pas débander vos pieds. C'est malsain pour votre corps entier. Voyez, vos os sont comme ceci. » Il prit un crayon et dessina rapidement un affreux pied nu, tout ratatiné, sur une feuille de son livre. Comment savait-il ? Je n'avais jamais bandé mes pieds devant lui. Nos autres femmes chinoises ne les montrons jamais. Même la nuit, nous portons des chaussettes de toile blanche. « Comment savez-vous ? » lui demandai-je haletante. parce que je suis un docteur qui a fait ses études en Occident, répondit-il. Aussi, je désire que vous débandiez vos pieds, car ce n'est pas beau. Et puis c'est passé de mode. Cela ne vous touche-t-il pas ? Il sourit légèrement et me regarda avec bienveillance. Mais je retirai hâtivement mes pieds sous mon fauteuil. J'étais saisie par ses paroles. Pas beau ? Moi qui avais toujours été si fière de mes petits pieds. Toute mon enfance, ma mère elle-même avait présidé au bain chaud et à l'enveloppement des bandes, de plus en plus serrées chaque soir. Quand je pleurais dans ma souffrance, elle me priait de songer au jour où mon mari louerait la beauté de mes pieds. Je baissais la tête pour cacher mes larmes. Je me rappelais toutes ces nuits agitées, ces journées pendant lesquelles je ne voulais ni manger ni jouer, où je restais assise sur le bord de mon lit en balançant mes pauvres pieds pour alléger la pression du sang. Et maintenant, après avoir tout supporté jusqu'à ce que la douleur cesse, depuis à peine un an, apprendre qu'il les trouvait laids, je ne peux pas, dis-je. J'étranglais en me levant, et je dus sortir du salon incapable de retenir mes larmes. Ce n'était pas que je tinsse à mes pieds d'une manière exagérée, mais si mes pieds, revêtus de leurs souliers habilement brodés, ne trouvaient pas grâce devant ses yeux, comment moi pourrais-je jamais espérer gagner son amour ? Car lorsque mes pieds eurent été baignés et entourés d'une bande plus lâche, la souffrance devint intolérable. En réalité, la détente fut aussi pénible que la compression du début. Mes pieds, habitués à être maintenus, s'allongèrent légèrement et le sang reprit à couler. « Comme vous avez souffert, » dit-il d'une voix basse et émue. « Quelle douloureuse enfance !» Et cela pour rien. Les larmes vinrent aux yeux à ces mots. Il rendait mes sacrifices inutiles et en réclamait encore un nouveau.
Dans le conte de Perrault, Cendrillon passe de l'oppression familiale à une vie maritale grâce à ses petits pieds. De là à lui trouver une parenté avec les Asiatiques aux pieds bandés, il n'y a qu'un petit pas, opéré par Yu Pei Kang. Spécialisée dans les études de genre, la chercheuse étudie les contes de fées au prisme du pied. Vous affirmez que dans les contes de fées, on trouve une forte occurrence du pied. Souvent, l'objectif est de plaire aux hommes.
Je suis partie des différentes versions de Cendrillon qui toutes racontent l'histoire d'un prince retrouvant l'escarpin perdu d'une jeune fille pauvre. L'amour exclusif du prince qui se focalise sur cet escarpin porte un nom, le fétichisme du pied, qui s'est révélé récurrent dans les contes de fées européens et chinois. On peut citer Mélusine, dont les pieds sont sacrés, les souliers rouges d'Andersen, les souliers aux bas usés des frères Grimm, et bien sûr la petite sirène qui sacrifie sa voix pour obtenir deux jolis pieds afin d'épouser le prince. Si ces héroïnes font de leurs pieds un instrument de conquête, cette même conquête les conduit à leur perte.
Vous vous êtes particulièrement intéressée aux pieds dans le conte de Cendrillon. Pourquoi avez-vous choisi de vous concentrer sur ce conte ?
D'abord, Cendrillon est l'un de mes contes préférés. Mais il est aussi paradigmatique. Plus que les autres, Cendrillon fait de ses pieds un objet d'amour. Intentionnellement, elle perd son soulier, car elle a appris que le prince épouserait celle, je cite Perrault, dont le pied serait bien juste à la pantoufle. Dans une autre version française, signée Madame d'Aulnoy, le prince trouve la mule. La regarde, en admire la petitesse et la gentillesse, la tourne, la retourne, la baise, la chérit et l'emporte avec lui. Il en tombe maladivement amoureux et ne guérit qu'en retrouvant son fétiche, à savoir les petits pieds de l'héroïne.
Mais pourquoi le pied, dans les contes comme dans l'histoire, est-il tant érotisé ?
Selon les sexologues, le pied est la partie qui possède le plus de phéromones et contient des nerfs croisés avec les parties génitales. Autrement dit, la stimulation du pied provoque une réaction de nature sexuelle. Selon certains psychologues, si le pied symbolise un organe érotique, la chaussure devient alors un récipient sexuel comparable au vagin. On enfonce le pied dans la pantoufle, ce qui se passe de commentaires. En français, ne dit-on pas « prendre son pied » pour exprimer le plaisir sexuel ? Par ailleurs, le pied est souvent caché, comme le sexe. En Chine, lors des dynasties Ming et Qing, les pieds féminins, couverts par l'habit, étaient pour les hommes l'objet d'une attraction érotique irrésistible.
En Chine, d'ailleurs, les filles aux pieds bandés étaient, comme Cendrillon, promises à une vie maritale plus aisée.
La tradition des pieds bandés, qui consistait à courber à l'aide de bandelettes les orteils des petites filles dès l'âge de 5 ans, avait pour objectif de réduire la taille de leurs pieds d'environ 10 cm et de les transformer en objets d'amour. C'était un privilège qui garantissait le mariage avec un homme riche. Les femmes aux pieds bandés étaient bien sûr confinées à la maison toute leur vie. Cette pratique qui engendrait des souffrances inimaginables n'a été officiellement abolie qu'en 1911. Mais aujourd'hui encore, en Chine et à Taïwan, les petits pieds féminins sont plus appréciés. En 1000 ans, cette tradition a été, je pense, intériorisée.
Aujourd'hui, les talons aiguilles sont-ils l'équivalent occidental des pieds bandés d'hier ?
Dans les deux cas, il s'agit d'altérations physiologiques et imposées aux femmes pour immobiliser leur corps et mobiliser le désir. Notre culture foisonne de figures de femmes qui habillent leur corps avec des corsets, de hauts talons ou autres accessoires de torture pour répondre aux codes de séduction masculine. En ce sens, je considère les femmes de la série Sex and the City comme des cendrillons modernes. Elles ont beau être financièrement indépendantes et incarner une libération sexuelle, elles jouent aussi en un sens les midinettes et restent obsédées par leur quête de reconnaissance masculine. C'est ce que l'écrivaine Colette Dowling appelle le complexe de Cendrillon.
Vous venez d'entendre un extrait dialogué d'un article de la revue Cosette d'avril 2020. Et maintenant, un vieux standard avec Valentine et ses petits petons, encensés par Maurice Chevalier dans les années 1920.
On se rappelle toujours sa première maîtresse. J'ai gardé de la mienne un souvenir plein d'ivresse. Un jour qu'il avait plu, tous deux on s'était plu. Ensuite, on se plut de plus en plus. Je lui demandais son nom. Elle me dit « Valentine ». Et comme elle suivait chaque soir la rue Custine, je pris le même chemin. Et puis je lui pris la main. Je lui pris tout, enfin. Elle avait de tout petits petons. Valentine, Valentine. Elle avait des tout petits tétons que je tâtais à tâtons, tonton, tontaine. Elle avait un tout petit menton. Valentine, Valentine. Outre ses petits petons, ses petits tétons, son petit menton, elle était frisée comme un mouton. Elle n'était pas une grande intelligence, mais dans un plumard, ça n'a pas d'importance. Quand on a 18 ans, on n'en demande pas tant. Du moment qu'on s'aime, on est content. Elle n'avait pas un très bon caractère. Elle était jalouse et même autoritaire. Pourtant, j'en étais fou. Elle me plaisait beaucoup parce que, surtout, elle avait de tout petits petons. Valentine. Valentine. Elle avait des tout petits tétons que je tâtais à tâtons, tonton, tontaine. Elle avait un tout petit menton. Valentine, Valentine. Outre ses petits petons, ses petits tétons, son petit menton, elle était frisée comme un mouton. Hier, sur le boulevard, je rencontre une grosse dame avec des grands pieds, une taille d'hippopotame. Vivement, elle me saute au cou, me crie « Bonjour, mon loup !» Je lui dis « Pardon, mais qui êtes-vous » Elle sourit « Voyons, mais c'est moi, Valentine !» Devant son double menton, sa triple poitrine, je pensais remplie d'effroi. Qu'elle a changé, ma foi ! Dire qu'autrefois, elle avait des tout petits petons, Valentine ! Mais ils sont enflés à présent, Valentine ! Elle avait des tout petits tétons, des vraies petites pommes ! Non, non, j'aime mieux parler d'autre chose, voilà. Elle avait un tout petit menton avec une petite pincette. Elle en a 4 ou 5 mentons maintenant. Oh, cette pauvre Valentine. Ça devrait pas être permis, ça, non. C'est des trucs qui ne devraient pas être permis, non.
Thank you.
avez eu de très beaux pieds. Mieux vaut les voir que de les respirer. Je suis sensible des extrémités.
Et c'est pour ça du sang.
Vous avez reconnu Depeche Mode et Walking in My Shoes. C'est une longue histoire. Cela a commencé 26 ans auparavant, quand Eugene est venue au monde. Encore tendre, comme flottant dans l'eau. La plante des pieds et la paume des mains toutes fripées, rougies, les doigts très souples, que sa mère a compté tout de suite pour être sûre qu'il n'en manquait pas et qu'il n'y en avait pas un de trop. Le gros orteil qu'Eugene suçait pour s'endormir, la jambe pliée jusqu'à son visage, les bras autour de ses cuisses comme une sorte de nœud de chair rose, tiède et douce, très chaude, vivante. C'était autant longtemps. Maintenant, Eugene ne connaît plus le goût de son gros orteil. C'est devenu lointain, étranger, différent. Tout juste un souvenir, celui de sa mère qui lui a dit un jour « Tu ressemblais à Balarama, le frère de Krishna, en train de sucer son orteil assis sur sa feuille de lotus sur l'eau des rivières. » Maintenant, sa mère n'est plus là. Son souvenir la renvoie à un temps qui n'existe pas. Cela s'appelle la solitude, sans doute. Pour savoir, elle a demandé à Marc, son petit ami, de prendre son gros orteil dans sa bouche. Quel goût ça a ! Marc est amoureux. Il aime les histoires étranges, les incartades à la banalité des jours. « Ça a le goût du lait », a-t-il dit, après réflexion, et ses yeux riaient. Il voulait goûter à toutes les parties de son corps, mais Eugene s'est rétractée. Elle a repris son orteil. « Espèce de pervers », a-t-elle dit. Mais elle n'a pas voulu expliquer pourquoi. « C'est toi qui me l'as demandé ?» Eugene a mis la main sur sa bouche. « Embrassons-nous, c'est mieux. » Ça s'appelle donc la solitude. Être seul comme un gros orteil. Bien sûr, la compagnie des autres doigts, les deux pieds. Mais cela ne rend pas leur solitude moins pesante. Sans voir, sans parler, si loin de la bouche, si loin de l'âme. Tu marches avec les talons, les mots de cette vieille, une vieille fille sans aucun doute. C'était le premier appartement d'Eugene, un studio au 5e sans ascenseur. C'était si bon et si enivrant la liberté de ne plus avoir à répondre à personne, de ne plus supporter les vannes de son frère, les reproches de son père. Mais la vieille, au 4e, juste en dessous, une prof de lettres mal lunée, mal fagotée, mal baisée. Elle l'attendait derrière sa porte et quand Eugene passait, elle l'interpellait. Elle lui barrait le passage avec son bras maigre. Elle la touchait du bout de ses doigts froids. « Un instant, mademoiselle !» Un peu effrayante malgré sa maigreur et sa petite taille, ses cheveux teints en roussâtre, ses yeux gris pareils à des boutons de fièvre. « Je voulais vous faire une observation. » Des années que Jean n'avait pas eu peur d'une prof. Elle repensait sans doute à Mademoiselle Doux qui ne portait pas bien son nom. Méchante, rusée, hargneuse. Ses mauvais points, ses coups de règle sur les doigts. Ses doigts crochus qui s'accrochaient aux cheveux des petites filles les arrachaient très lentement. Et Mademoiselle Doux riait de les entendre pleurer à petits cris de souris. « Aïe, aïe, aïe !»« Mademoiselle, est-ce que vous savez que vous marchez sur les talons ?» Avant même une réponse, elle continuait. « À vous voir, mademoiselle. On pourrait penser que vous êtes légère, une vraie sylphide, là-là, avec vos ailes, pou-pou. Mais quand on habite en dessous, boum, boum, vous devenez un éléphant, les talons en avant, et je cogne, je piétine, j'ai des charrues aux pieds. » Eugene s'était enfuie. Elle descendait les escaliers 4 par 4. La rampe tremblait, et la voix aiguë de mademoiselle Doux la poursuivait, la rattrapait. « Les talons, vous marchez sur les talons !» Alors Eugene devait vivre pieds nus. Même les claquettes faisaient du bruit. Dérouler la plante du pied lentement, les orteils d'abord. Appuyer le talon doucement, doucement.
Notre émission se termine avec Le Clésio et quelques histoires de pieds que vous venez d'entendre.
J'ai entendu ta voix dans la radio.
Oh,
un grand merci pour votre écoute. J'entends des voix, c'est terminé. D'ici là, podcastez dès maintenant sur radio-g.fr, émission J'entends des voix. L'émission revient dans 15 jours pour écouter d'autres textes choisis pour vous et par nous. La semaine prochaine, c'est Tout compte fait, l'émission de découverte des contes pour tous les âges. La suite, à l'écoute de Radio G, toujours sur 101.5 FM.